Bonjour à tous, bonjour à toutes pour ceux ou celles que je n'ai pas pu encore saluer. Qu'il est bon hein, de se rassembler entre frères et sœurs hein, pour louer le Seigneur, pour être ensemble, mais que c'est bon. Waouh. Écoutez, j'essaie toujours quand c'est mon tour, quand c'est à moi de prêcher, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et je ne sais pas dans, pour vous, mais dans cette période, alors au-delà du contexte sanitaire et autres, moi j'ai été pas mal chamboulé sur ces présidentielles. Je ne sais pas si vous avez encore voté, je suis allé voter ce matin, mais oh là là, que ça a été dur de savoir quel candidat, pour qui voter. Et je vous rassure, je ne vais pas faire de propagande ce matin, mais juste pour dire qu'il y a parfois des élections où c'est peut-être parce que j'étais plus jeune, mais ça me paraissait plus simple. Et cette fois-ci, ça a été dur. J'ai dit, Seigneur, mais ah, j'ai l'impression de ne pas entendre, de ne pas discerner ta voix pour qui il faut voter. Et alors que, voilà, je ne sais pas, ça a duré plusieurs semaines, je priais, tout ça. Et j'ai senti, parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, dans chaque candidat, je pense qu'on sera tous d'accord, il y a des belles choses. Il y en a qui sont pour l'accueil de l'étranger, c'est biblique. Il y en a qui sont pour la famille, pour préserver la famille, c'est biblique. Il y en a qui sont pour être des bons gestionnaires, pour une belle économie, pour mettre des mesures fiscales et autres en place, c'est bon aussi. Il y a nos valeurs chrétiennes qui sont préservées ou pas, voilà, il y a... En fait, dans chaque candidat, presque, moi, j'avais envie de faire un mix et dire, ouais, Seigneur, mais ce n'est pas possible. Et c'était tout ça. J'ai dit, Seigneur, et donc, est-ce que j'axe plus sur ça ou plus sur ça? Enfin, vraiment, c'était un vrai combat pour moi. Et j'ai dit, au secours, Seigneur, au secours. Et je suis tombé sur ce verset qui dit dans Romains 13, verset 1. Et donc, je vous invite à sortir déjà votre Bible ou votre smartphone parce que vous allez voir, on va beaucoup lire la Bible ce matin. Ça risque de s'afficher, mais quand même, suivez avec moi, c'est important. Romains 13, verset 1, nous dit que tout homme se soumette aux autorités supérieures. Écoutez bien, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Ah, ouf! Le Seigneur est en contrôle. Et ce verset m'a vraiment apporté la paix. Parce que je me suis dit, ben Seigneur, ça ne veut pas dire que je ne vais pas voter, ça ne veut pas dire que je ne dois pas me positionner. Mais ça veut dire que parfois... Enfin, je me suis rendu compte que j'ai trop mis l'emphase, comme s'il y avait un messie, vraiment une personne, un homme, une femme, qui allait sauver la France, sauver le monde, vraiment tout faire ce qu'il fallait. Et j'ai réalisé qu'en fait, il n'y a qu'un seul messie, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Et j'insiste bien, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être citoyen et qu'on ne doit pas voter, mais c'est pour dire que notre attente, notre espérance, elle est en Christ, elle est en lui. Et au-delà de notre choix que vous avez fait ou que vous allez faire dans les prochaines heures, j'aimerais que l'on réfléchisse à nos attentes. Vous savez, dans Actes 4, verset 12, il est dit, c'est en Jésus seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Si ce n'est pas un président qui nous sauve ou une présidente, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Dieu m'a rappelé qu'en fait, ici, là, chacun d'entre nous, nous avons notre mission à jouer, nous avons notre responsabilité. Et parfois, on attend un peu le sauveur, la personne qui va tout révolutionner à Montélimar, en France, comme si on mettait toutes nos attentes et puis nous, on pouvait rester confortablement assis dans notre canapé et puis voilà, être passif. Non, Dieu m'a rappelé qu'en fait, nous sommes sel et lumière. C'est-à-dire que si nous, on n'apporte pas ce sel, si on n'apporte pas cette lumière là où Dieu t'a placé, mais on passe à côté de notre mission principale sur cette terre. Amener le royaume de Dieu. Rappelez-vous, dans Matthieu 6, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Il y a cet appel, il y a cette recherche. Ce n'est pas juste regarder si le royaume. Non, chercher. Chercher, ça demande d'être actif. Ça demande de se bouger. Ça demande de la prière, c'est de la sueur. Donc on cherche le royaume de Dieu. Donc on veut que le royaume de Dieu se manifeste dans ce monde. Et par différentes prédications, par différents moyens, des frères et sœurs, vraiment, Dieu m'a vraiment parlé sur « Soyons des Daniel, des Joseph et des Esther dans ce monde. » Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Daniel, Joseph et Esther, mais c'est dans la Bible. Daniel, Joseph et Esther sont trois héros de la foi, qui n'ont pas attendu que le bon roi arrive, le roi parfait, le roi qui sert Dieu, pour amener le royaume de Dieu. Là où Dieu les a placés, ils ont exercé leur autorité royale et ont changé leur nation. Réalisez ça, pour ceux qui, peut-être c'est un peu nouveau, je vous invite vraiment donc qu'à le lire dans l'Ancien Testament. Daniel, il vivait dans le temps où il y avait le roi Nabucodonosor. C'était l'un des hommes les plus violents que cette terre ait vu. Il était hyper violent. C'est lui qui a déporté les Juifs en Babylone. C'est lui qui a fait des choses horribles. Et pourtant, Dieu l'a utilisé au temps de ce roi-là. Joseph, au temps de Pharaon, hein, je pense que Pharaon, tout le monde se situe à peu près. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Beaucoup de très mauvaises choses. Et le Pharaon qui a suivi le Pharaon quand Joseph est arrivé, c'est lui qui a tué tous les nouveau-nés. C'est lui qui a fait des choses atroces. Et pourtant Dieu a placé Joseph en ces temps-là. Esther, elle a été placée donc au temps de Aman. Aman, c'était un homme méchant, c'était un homme horrible qui a fait des choses horribles, qui voulait exterminer les Juifs. Et Esther était placée là. Et je voulais nous faire réaliser que parfois, on veut, voilà, Seigneur, ben, mets-moi là où il n'y a pas trop d'embûches, là où il n'y a pas trop de guerre, là. Mais pensons à nos frères et sœurs ukrainiens, à nos frères et sœurs en Russie et dans les autres pays où il y a la guerre. Et c'est vrai qu'il y a une petite voix, il y en a nous qui disent, ah, Seigneur, s'il te plaît, juste pas moi. Et pourtant, le Seigneur nous envoie dans ces endroits-là, dans ces endroits terribles où personne humainement n'a envie d'y aller. Mais pourquoi? Pour être sel et lumière. Ne perdons pas de plus notre mission principale. Nous ne sommes pas là, ici, sur cette terre, pour passer une vie paisible où on est bien et tout se passe tranquille. Non, on est là pour changer le monde. On est là pour amener le royaume de Dieu. On va en parler et on va chanter ça pour la semaine prochaine, que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, il a tout accompli à la croix. Il nous a donné ce mandat et cette autorité de dire « Allez, 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 dans toutes les nations, allez, 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 guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. » Il y a cette mission de « Allez ». Et je veux vous dire ce matin, les amis, on ne peut pas être chrétien et rester assis sur sa chaise. On ne peut pas être chrétien et juste se laisser balloter à droite. Non, nous sommes appelés en tant que chrétiens à être actifs. Oui, on l'a chanté, je cours vers le Père. Mon identité, elle n'est pas dans ce que je fais, elle est dans qui je suis. Je suis enfant de Dieu, tu es fils ou fille de Dieu. Mais on a ce mandat, on ne peut pas juste dire, ben, alléluia, je suis enfant de Dieu, c'est bon, je m'arrête là. Non, parce que tu es enfant de Dieu, tu peux changer le monde. Parce que tu es enfant de Dieu, même si tu as des échecs, tu te relèves parce que tu sais que tu es aimé. Même si tu tombes, tu te relèves. Sept fois, le juste tombe, sept fois, il se relève. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est aimé, parce qu'il sait que le Père a un regard bienveillant sur lui. Et je sens dans mon cœur, Dieu a déposé ça sur mon cœur, qu'il est temps que des Daniel, que des Joseph, que des Esther se lèvent. Et je peux vous dire qu'ici, nous sommes tous, un, deux, ou peut-être eh ben, les trois en même temps. Et je ne vais pas pouvoir les aborder tous les trois là, donc je vais m'arrêter que sur Daniel pour aujourd'hui. Mais vous allez voir combien c'est riche de voir l'œuvre de Dieu dans la vie de ces trois héros, qui, je vous le rappelle, étaient, on ne les met pas sur des piédestals, parce que c'était des hommes et des femmes qui servaient Dieu, mais ils étaient comme vous et moi. Ils avaient leurs faiblesses, ils avaient leurs doutes, ils avaient leurs inquiétudes, leurs peurs. On pourra en parler. Et pourtant, ils ont dit, Seigneur, me voici. Me voici pour te servir. Même quoi qu'il en coûte, hein, ce n'est pas quoi qu'il en coûte donc au niveau argent, c'est quoi qu'il en coûte, même si je dois perdre ma vie, Seigneur, je te suivrai. Est-ce qu'on est prêts, les amis? Parce qu'on est prêt à dire, Seigneur, même si je dois perdre ma vie, je te suivrai. Ce qui compte, c'est que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais la tienne, Seigneur. Alors, peu importe pour qui tu votes aujourd'hui, ce qui compte, c'est le rayonnement que tu as autour de toi. Le rayonnement en Christ que tu as autour de toi. Daniel, alors je vous invite à ouvrir votre Bible smartphone dans Daniel 1. Comme je vous l'ai dit, on va beaucoup lire parce que c'est tellement riche et ça fait du bien des fois de lire la parole. Comme je vous l'ai dit, le contexte, hein, parce que je ne peux pas non plus tout lire, mais Nabucodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem et remporte la victoire. Il ordonna à son chef de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capables d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Rien que ça. Alors, je ne sais pas qui a déjà étudié la littérature française, mais c'est déjà complexe. Alors, vous rajoutez à ça une nouvelle langue, une nouvelle littérature des Chaldéens, je pense que, waouh, ça devait être du costaud. Et vous savez que Daniel et ses trois amis ont été choisis pour faire partie de ce petit groupe qui pouvait potentiellement entrer à la cour du roi. Daniel, ça signifie jugement divin, où Dieu est mon juge. Daniel, il était beau, doué, de lignée royale, et faisait partie, de, comme je vous l'ai dit, de ce groupe avec trois compagnons, Anania, Michaël et Azaria, que le roi fut appelé ensuite Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel était un homme pieux qui aimait Dieu et refusa de se souiller avec les mets du roi. Vous pourrez le lire dans le chapitre 1. Il demanda ainsi, alors qu'il y avait, imaginez, une belle tablée, de la bonne viande, du bon vin, il y avait des bonnes choses, mais il demanda au chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel qui accepta. Ainsi Daniel et ses trois compagnons ne mangèrent que des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Et au bout des 10 jours, ils avaient meilleure mine que tous les autres. Il est dit plus loin que le roi Nabucodonosor s'entretint avec eux quatre et ne trouva aucun homme comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Alors, ils entrèrent au service du roi. Je vais juste m'arrêter là pour bien comprendre que qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu la faveur de ce chef? Qu'est-ce qui a eu qu'ils ont été choisis pour rentrer à la cour du roi? Je peux vous dire que c'était pas juste parce qu'ils étaient beaux, c'était pas juste parce qu'ils étaient peut-être doués, parce que Dieu donne à chacun des talents et des dons. Mais je pense que Dieu les avait voulu ici toute éternité pour avoir un impact. Et je veux m'arrêter là parce que je veux dire que parfois on se dit, mais Seigneur, à quoi bon ma vie? Qu'est-ce que je fais dans ce travail-là? Qu'est-ce que je fais dans cette famille-là? Qu'est-ce que je fais à cet endroit-là? Et c'est dur, Seigneur. Mais je veux te dire que Dieu ne s'est pas trompé. Si toi, il t'a mis là, si il t'a fait maman, papa, chef d'entreprise, salarié, si il t'a fait d'une grande fratrie ou fils unique, Dieu ne s'est pas trompé. Et c'est qu'il t'a placé à un endroit pour agir et amener son royaume. Ta famille, dans ton travail, à la maison, partout où tu vas être un instrument de bénédiction. Et parfois, on peut oublier, et on est plus dans le murmure et dans le Seigneur, pourquoi? Mais réalise que Dieu t'a mandaté, chacun d'entre nous, personne n'est exclu. On a tous été choisis par Dieu pour avoir un impact et amener son royaume là où il nous a placés. Et justement, si tu te dis aujourd'hui, mais moi, c'est impossible. Ma famille, ils sont à 10 000 lieues de rencontrer Christ. Mais c'est extraordinaire. Ça donne l'opportunité à Dieu de faire quelque chose d'impossible. Prie pour ta famille, mets-toi à genoux et prie, dis Seigneur, humainement c'est impossible, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Et commence à intercéder pour ta famille. Si c'est ton patron, si c'est tes collègues, tu dis, mais lui, jamais. Humainement, oui, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Commence à prier et intercéder pour tes collègues, pour ton patron, et ainsi de suite. Les amis, merci à Maël qui l'a dit, il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Et qui nous sommes pour dire, mais lui, jamais. Non, laissons Dieu agir dans nos vies. Et c'est ce qu'il a fait au travers de la vie de Daniel. Le roi fit un rêve qui l'épouvanta et convoqua tous les mages, les magiciens, les devins et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ces derniers demandèrent au roi de leur révéler le rêve. Mais le roi ne voulut pas car il souhaitait qu'on lui révèle le rêve et la signification. Bon courage. Et au chapitre 2, verset 10, vous pouvez le lire avec moi. Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi jamais roi, si grand et si puissant qu'ils aient été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Le roi se met alors dans une colère noire et ordonne de tuer tous les sages de Babylone, dont Daniel et ses trois compagnons. Et là, ce que j'aime trop, vous le lirez du chapitre 12 jusqu'au verset 13, j'aime bien parce que d'un coup, il y a Daniel qui réapparaît, mais on a l'impression, c'est pas écrit, hein, c'est moi qui le déduis, mais alors que c'est ordonné, Daniel et ses compagnons ne sont pas au courant, mais c'est comme s'ils sont cool. Alors Daniel, verset 14, s'adressa, alors parce qu'il n'était pas au courant, avec tact et sagesse, j'en reparlerai, à Héroc, le chef des bourreaux, et se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il ferait connaître l'interprétation demandée. C'est quelle foi. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce, il leur révèle le secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et le reste des sages à Babylone. Je veux m'arrêter là. réalisons, les amis, parce que des fois, donc on le lit, mais on ne réalise pas. Déjà, interpréter un rêve, je pense qu'on sera tous d'accord, ça relève du miracle. Mais alors, trouver le rêve qu'on va interpréter, franchement, je vous disais juste avant que de prier et d'intercéder pour des choses impossibles, je pense qu'on sera tous d'accord, ça c'est juste impossible. Et si c'était un petit rêve, j'ai rêvé d'oiseaux, non mais quand on lit le rêve, franchement, des pieds de bronze, des machins qui se détachent, ben, franchement, c'est impossible humainement. Moi qui aime les maths et les statistiques, je pense qu'on sera tous d'accord, on est proche, voire c'est 0%. C'est impossible de trouver ce rêve. Et ce que j'aime trop, parce qu'on est tous confrontés à ça, c'est que parfois on se retrouve au pied du mur. On va dire, Seigneur, là, en gros, si tu n'interviens pas, on est tous morts. Parce qu'il faut réaliser, nous on est là, donc on lit ça. Réalisons que si Dieu ne lui révèle pas le rêve, Daniel et ses trois compagnons sont morts. Là, il n'y aura pas de cadeau, c'est pas oui, mais tu sais, non, blam. Et tous les sages, et ils se mettent à genoux, et pendant cette nuit, ils prient, disent, Seigneur, oh, je t'en supplie, Seigneur, dans ta grâce, Seigneur, révèle-nous ce rêve. Et peut-être que c'est cette prière que l'on peut avoir. Seigneur, dans ta grâce, sauve mon mari. Dans ta grâce, Seigneur, sauve mon père. Sauve mon patron, sauve mon collègue. Sauve, Seigneur, mon voisin. Oh, dans ta grâce, Seigneur. Il y a cette action. Ils n'ont pas dit, ben, tant pis, on va attendre et on verra ce qui se passe. Non, ils se sont mis à genoux et ils ont intercédé le Dieu des cieux que dans sa grâce, il leur révèle le secret. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua Dieu, le Dieu des cieux, en disant, verset 20, « Loué soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. » Et là, je vous prie de bien le lire et d'écouter avec moi. « Il fait changer les temps et modifie les circonstances. » Et là, ça va nous parler pour ce matin. « Il renverse les rois, ou les présidents, et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. » Il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres. Et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Waouh ! Et ça aussi, je pense que c'est une autre clé. Daniel, il reçoit ce rêve. Et avant d'aller voir le roi, je l'imagine tomber à genoux, ou peut-être qu'il était déjà à genoux, et dire « Seigneur, merci, il est dans la gratitude, il est dans la reconnaissance. » Dieu nous parle, les amis. Dieu agit, Dieu intervient. Sachons le louer, sachons lui rendre gloire, dire « Seigneur, merci, merci parce que tu es intervenu pour ma famille, tu es intervenu pour telle ou telle situation. » Soyons dans la reconnaissance. Et Daniel retourna, verset 27, vous pouvez le lire avec moi, « voir le roi. » Le secret que sa majesté demande, aucun sage, donc j'aime trop parce qu'il voilà, il fait bien comprendre que c'est juste impossible à trouver. Aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret. Et il a fait savoir au roi Nabucodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'il dit, voilà, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a personne qui peut te donner le rêve à part une personne, Dieu. L'Éternel des armées. Et c'est extraordinaire parce qu'avant de lui révéler le rêve, il plante le décor, il dit, écoute, il n'y a qu'une possibilité pour que j'ai trouvé ce rêve, c'est qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. Et donc, je ne vais pas tout lire sur le rêve, mais en gros, extraordinaire, vous le relirez, il y a une précision de dingue sur le rêve, franchement, c'est impossible à trouver. Daniel donne le rêve et l'interprétation. Extraordinaire. Et j'avance, verset 46, et là, c'est... Non mais, regardez le fruit, c'est extraordinaire. Alors le roi Nabucodonosor se jeta à la face contre terre. Un roi, un tout puissant. Donc à l'époque, le roi de Babylone, c'était vraiment le pharaon de l'époque. Incroyable. Il gagnait tous les combats qu'il faisait. Il se jette la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il déclara, il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux. Le souverain des rois est celui qui révèle les secrets. Puisque tu as pu me dévoiler ce secret. Le roi éleva Daniel à une haute position. Il lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Waouh ! C'est pas formidable, les amis ? C'est pas extraordinaire ? Daniel se retrouve à la cour d'un roi violent qui a détruit sa ville, qu'il a déporté de chez lui vers Babylone. Et Dieu lui donne la faveur à Daniel de toutes les personnes autour de lui, y compris le roi lui-même. qui se prosterne et se met à louer Dieu, voyant sa gloire manifestée en Daniel. Pareil, je n'ai pas le temps, mais vous le lirez au chapitre 3, vous connaissez tous l'histoire de la fournaise, hein, où les trois amis de Daniel sont jetés dans cette fournaise extra brûlante, 7 fois plus brûlante que d'habitude, et qui n'ont rien, qui ne sentent même pas l'odeur du brûlé, parce que Dieu les a délivrés, parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant les idoles. Ils disent non, nous, on ne se prosternera que devant Dieu. Extraordinaire, vous le relirez chez vous, c'est magnifique. J'avance, parce que Daniel, il ne s'arrête pas là. Il continue d'expliquer des rêves. Et au chapitre 4, Daniel, donc pareil, Nabucodonosor refait un rêve qui l'épouvante. Et Daniel lui révèle que sa royauté va lui être retirée jusqu'à ce qu'il reconnaisse le Très-Haut et maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui lui plaît. Parce que le roi dit « Waouh, regarde, mon bel empire ou quoi !» Et à ce moment-là, le rêve que Nabucodonosor a fait et ce que Daniel a dit se fait. Verset 30 du chapitre 4, vous pouvez le lire avec moi. « Au même instant, la sentence prononcée contre Nabucodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes. Il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs. Et son corps fut mouillé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle. Et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. » Verset 31. « Au terme du temps annoncé, moi, Nabucodonosor, je levai les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. » Très important. « Je remerciai le Très-Haut. Je louai celui qui vit éternellement. Et je proclamai sa gloire. Sa souveraineté est éternelle et son règne dure d'âge en âge. Devant lui, tous les habitants de la terre ne comptent pour rien. Il agit comme il entend envers l'armée des êtres célestes et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui dire « Que fais-tu là ?» Alors même, la raison me revint, la gloire de ma royauté, la majesté et la splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes dignitaires me rappellent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Maintenant, moi, Nabucodonosor, écoutez bien, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles. Et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Et moi, je dis juste, waouh, Daniel se retrouve avec ce roi. Dieu intervient tellement dans la vie de ce roi qui se retrouve à louer Dieu. Alors lui, qui était un homme sanguinaire, violent, Nabucodonosor, et bien presque, c'est pas écrit, mais c'est extraordinaire, à diverses reprises, on dirait presque qu'il a tourné son cœur vers Dieu. Il dit, ben oui, j'ai beau m'entêter, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et son règne, c'est lui qui vient. Là, ce que je vous ai dit, c'est le roi qui le dit, c'est pas Daniel. Il dit, car son règne n'aura pas de fin. C'est extraordinaire. Et c'est pas fini. J'ai pas le temps de le lire, mais chapitres 5 et 6, vous connaissez cette histoire aussi de David dans la fosse au lion. C'est extraordinaire. Daniel, c'est extraordinaire. Dieu l'a délivré de la fosse au lion. C'est tellement riche. Mais je vais avancer parce que j'ai plein de choses à vous dire sur Daniel. Daniel était intègre avec Dieu. C'est la caractéristique numéro 1. C'est ce qu'on peut retenir de tout ce livre de Daniel, de qui était Daniel. C'était un homme intègre. Il ne s'est pas souillé avec des aliments impurs. Il a refusé d'adorer d'autres dieux que son Dieu à lui. Même devant le roi, même quand le roi lui ordonnait, il a dit non, moi je n'adorerai que Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intégrité, et il y a plein de versets qui en parlent, l'intégrité, c'est ce que Dieu désire dans nos vies. Vous connaissez tous ces versets dans Michée 6:8 qui dit « On t'a fait connaître aux hommes ce que l'Éternel attend de toi. » C'est que tu aimes la loyauté, que tu marches dans l'intégrité et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde compliqué, on a besoin d'être sel et lumière aussi par notre intégrité et par notre droiture. Je nous vous y encourage, vraiment, ne faisons pas de compromis dans notre vie. Daniel, il n'a pas fait de compromis. Il a fait une différence. Il a été irréprochable. Vous savez, je suis allé vite parce que je voulais vraiment partager plein de choses. Mais vous savez qu'il est dit que, comme souvent, ceux qui étaient dans une position de gouvernant avec Daniel voulaient le faire arrêter et tuer parce qu'il énervait toujours tout réussir. Parce que Daniel était parmi les trois plus hauts. Et tous les satrapes, tous les magistrats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché quelque chose chez Daniel pour le faire tomber. Ils ont dit, nous n'avons rien trouvé chez Daniel. Daniel était irréprochable. Pourtant, comme vous et moi, c'était pas, il y a un Dieu, il était comme vous et moi. Mais il était intègre jusqu'au bout des ongles. Il était droit. Et ils n'ont pu rien trouver. Alors, ils sont allés chercher dans la loi de son Dieu, parce que Daniel priait 3 fois par jour. Ils sont allés trouver ça pour le faire tomber, parce qu'ils ont fait, par de la malice, voter une loi comme quoi il était interdit de prier un autre Dieu que le Dieu du roi de Babylone. Mais c'est la seule chose qu'ils ont pu trouver parce que Daniel a été intègre jusqu'au bout. Waouh ! Quel témoignage ! Soyons irréprochables dans notre intégrité et dans notre droiture. Quand tes collègues présentent des fausses factures de frais, volent des fournitures de bureaux sur le lieu de travail, font leur activité personnelle durant le temps de travail, etc., sois intègre et droit envers ton patron ou le gouvernement. Même quand tu es seul dans ton bureau, quand tu es seul chez toi, peu importe, soyons droits, soyons honnêtes. Et même si personne nous voit, je peux vous assurer que notre Père qui est dans les cieux nous le rendra. Et nous brillerons comme ça, que qu'on nous voit ou pas, qu'on soit intègre. Déclare et paie tes impôts honnêtement. Je vous encourage, les amis, en tant qu'expert comptable, je peux vous le dire. Payons nos impôts. Je le vois, et il n'y a aucun jugement. Et c'est humain. On a toujours envie de... N'est-ce pas ? Soyons honnêtes. Payons nos impôts. Et ce n'est pas moi qui dis, Romains 13, verset 6. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. Car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Dieu a le pouvoir de te bénir au-delà de ce que tu penses ou imagines. Fais-lui confiance pour tes finances en étant honnête. Psaume 11, verset 7, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Et je peux vous dire que dans le cadre de mon travail, je vois trop souvent chez les non-chrétiens, mais aussi chez les chrétiens, c'est que toujours on veut s'arranger, on veut passer un peu à côté. Mais je le crois que la Bible est claire qu'il y a une bénédiction à celui qui est droit et intègre. Et je peux vous le dire que ce n'est pas toujours facile. Je vais vous partager un témoignage tout frais. Alors que je me suis réveillé à 2h30 du matin pour préparer cette prédication, vraiment j'ai été réveillé par l'Esprit. Je prépare cette prédication, je pars au travail. À peine je mets un pied dans mon bureau, j'ai mon téléphone qui sonne, c'est un de mes plus gros clients. Je réponds, hyper énervé, je vous passe les détails sur les payes, les machins, tout ça. Et puis il me dit, ouais, puis je ne comprends pas, j'ai des collègues, ils passent leur télé perso, ils passent leurs frais, leur restaurant perso, tout ça. Pourquoi toi toujours, c'est carré, c'est machin, franchement, ça m'énerve, on se fait voler par l'État et machin, blablabla, vous connaissez la musique. Et là, c'est horrible, il me dit, bon, là, je vais acheter une télé, je peux la passer, c'est bon. Et vous savez, à ce moment-là, il y a un silence, et tu sens en toi, c'est horrible, parce que tu sens ce déchirement, le Saint-Esprit qui dit, sois ferme, Olivier, dans ta droiture, dans ton intégrité. Et tu sens dire, attention, tu peux perdre ce gros client. Attention, tu peux perdre ce gros client. Et c'était horrible, chanter ce combat en moi. J'ai pris mon souffle et j'ai dit, écoute, non. Je dis non, si tu as envie de faire ça, eh ben, tu le fais différemment. Tu prends de l'argent en salaire ou en autre. Mais une télé perso, ce n'est pas légal. Ouais, mais si, c'est mon argent. Non, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de la société, tu ne peux pas prendre ça. Et vous ne pouvez pas savoir... le courage que ça m'a demandé pour prendre position et dire non. Et parce que je sentais l'ennemi qui me dit, tu vas prêcher sur ça, mais est-ce que toi, tu es capable d'être intègre et d'être honnête? Et c'est pour vous encourager, pour vous dire que c'est pour chacun d'entre nous difficile de prendre position et de oser dire non. Non au compromis, non à la malhonnêteté. Je veux suivre mon Dieu, quoi qu'il en coûte. Seigneur, je te suivrai. Parce que Dieu est bon. Dieu est miséricordieux et fait jaillir sa lumière sur les justes. Alors, ne faisons pas de compromis, mais soyons droits et intègres. Deuxièmement, Dieu avait la faveur de Dieu et des rois. Daniel, pardon. Je suis désolé. Daniel avait la faveur de Dieu et des rois. Parce qu'il était intègre et pieux pour Dieu, Dieu lui accorda sa faveur auprès du chef de personnel, auprès du roi Nabucodonosor, de Balthazar, vous pourrez lire dans le chapitre 5, le fils du roi, de Darius, chapitre 6, le roi qui a succédé à Balthazar. À chaque fois qu'il y a eu des nouveaux rois, pourtant qui étaient différents, Daniel a eu la faveur des rois. Et je veux vous encourager, là où tu es, moi je le crois et je le prophétise, que là où tu es, tu vas avoir une faveur. Si Dieu t'a envoyé à un endroit précis, il va te donner sa faveur. Tout ce que tu as à faire pour avoir cette complète faveur, et je l'ai dit juste avant, sois intègre et sois droit. Ne fais pas de compromis. C'est comme ça que tu vas briller et que Dieu va t'utiliser. Sa faveur est sur toi et tu vas pouvoir être un instrument de bénédiction. Daniel a donc été promu dans la cour des rois aux plus hautes fonctions pendant des dizaines d'années avec plusieurs rois qui se sont succédés. Et je pense qu'il est temps pour nous chrétiens d'être établis dans les hauts lieux de ce monde pour exercer le royaume de Dieu, un royaume d'amour, de justice, de paix et de joie. Peut-être ministre, député, maire, peu importe, qui se lèvera pour exercer une autorité en Christ sur notre nation? Qui se lèvera pour remplir la mission que Dieu lui confie? Es-tu prêt à vaincre tes peurs et à suivre l'appel de Dieu sur ta vie? Le monde a besoin que les chrétiens se lèvent afin d'être sel et lumière des endroits sombres de ce monde. Proverbe 12, verset 2, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Et je vais prendre un témoignage extraordinaire que ma femme a vécu quand elle était plus jeune avant qu'on se rencontre. Donc elle est partie avec Jeunesse en Mission, pour ceux qui connaissent, pendant un an et demi. Et elle a eu le privilège de partir en Inde et dans d'autres pays. Et là, elle a rencontré un homme qui est haut placé, avec quelqu'un que vous connaissez, que je ne dirai pas par sagesse. Mais il y a quelqu'un qui est avec un haut de ce monde qui ne suit pas du tout Dieu. Mais lui, il est chrétien. Lui, il est là, chrétien, le second. Et Dieu l'a placé là, alors que c'est dans un environnement qui ne glorifie pas du tout Dieu. Dieu l'a placé là pour prier pour cette personne, prier pour qu'il se donne à Dieu, prier pour toute l'équipe qui est là pour qu'il y ait une différence. Et moi, ça m'a touché parce que je me suis dit, waouh, moi, pendant longtemps, je me suis dit, ben non, j'ai envie d'aller loin, loin de ceux qui font n'importe quoi, loin de ceux qui ne suivent pas Dieu. Mais lui, il a choisi d'être près de cet homme qui ne glorifie pas Dieu aujourd'hui, mais de dire, moi, je vais faire une différence là où Dieu m'a placé. Et quand Hello m'a raconté ce témoignage, je dis, waouh, je dis, mais Seigneur, envoie-moi là où tu veux. Et peut-être que Dieu t'enverra dans des mondes, dans des endroits ténébreux, dans des endroits où on n'est pas bien. Mais ce n'est pas pour que tu aies peur, ce n'est pas pour qu'il t'arrive quelque chose, c'est pour que tu fasses une différence. Dieu t'appelle, tu es lumière. C'est dans les ténèbres que la lumière brille. Dans les ténèbres que la lumière brille, que la lumière de Dieu brille. Alors, soyons ouverts et soyons prêts peut-être à aller là où Dieu nous envoie, dans des endroits sombres. Daniel parlait avec tact et sagesse. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit. Il a parlé à Héroc, le chef des bourreaux, avec tact et sagesse, afin de comprendre ce qui se passait. Et ça m'a touché parce qu'avec tact et sagesse, j'ai réalisé qu'aujourd'hui, on a besoin d'être Daniel aussi, d'être un Daniel dans nos mots. Vous savez que les mots peuvent tuer plus que des coups, que les mots peuvent détruire. C'est terrible. Combien de fois donc on a entendu des témoignages d'enfants qui ont été maltraités, juste verbalement, ça les a détruits. Et après, c'est tout un travail de reconstruction. Et nous, Dieu nous a donné une langue. Vous rappelez Jacques 3, que c'est un petit gouvernail. On peut embraser une forêt avec notre langue, comme on peut bénir les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu. Et je pense que c'est... Et puis de lire ça, tact et sagesse. Je dis, Seigneur, donne-nous du tact et de la sagesse dans nos langues pour nous parler, bien sûr, entre nous, entre frères et sœurs dans la foi, mais aussi pour ceux qui sont à l'extérieur et peut-être ceux aussi qui sont en position d'autorité. Sachons les bénir. La parole est claire. Prions pour nos autorités. Prions pour notre futur président. Prions vraiment pour que la bénédiction soit sur lui et sa famille. Ne maudissons pas, ne critiquons pas, mais bénissons ceux que le Seigneur a mis en position d'autorité. Et je crois que c'est ce que Daniel a fait. À aucun moment, on voit qu'il s'énerve contre le roi, qu'il dit à chaque fois, de tout ce qu'il nous a rapporté dans Daniel, c'est que des paroles qui amènent la vie. Il interprète les rêves, il glorifie Dieu, il fait des choses extraordinaires, mais à aucun moment, on voit qu'il critique le roi ou qu'il critique les ministres ou autres. Et je pense que c'est un encouragement pour nous, en tant que chrétiens, en tant que famille connecte, d'être dans la bénédiction et non dans la malédiction. Jésus lui-même, donc il a dit « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis, dites du bien sur eux. Si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un vraiment même veut te détruire, dis du bien sur lui, bénis-le, bénis sa femme, bénis ses enfants, proclame des choses extraordinaires sur lui. Et ça sera comme des charbons ardents sur sa tête. Dieu est à l'œuvre et il nous appelle à aller à l'encontre, aller à contre-courant dans ce monde. Beaucoup critiquent, beaucoup maudissent, mais nous soyons des frères et des sœurs qui bénissons nos ennemis. Colossiens 4, 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et enfin, Daniel a été utilisé par Dieu pour sauver des hommes et des femmes. Et quand je vous parlerai, vous verrez de Joseph et de Esther, c'est exactement la même chose. Dieu nous place à un endroit pour peut-être sauver une, peut-être 10, 100, des milliers de personnes. Si Dieu t'a placé à un endroit précis, c'est parce qu'il veut sauver des vies. Par la sagesse divine, les visions, les interprétations des rêves qui ont été données à Daniel, Dieu l'a utilisé pour sauver des vies. Et il est dit plus haut que quand le roi il voulait tuer tous les sages, eh bien, il est dit que parce que Daniel a donné l'interprétation du rêve, Daniel et ses trois compagnons ont été sauvés, mais aussi les sages. Et je trouvais ça extraordinaire qu'il aurait pu dire, c'est que nous quatre, par contre, tu peux tuer les sages. Non, non, il a sauvé toutes les personnes qui étaient avec lui dans cette position-là. C'est extraordinaire. Dieu veut t'utiliser pour sauver des hommes et des femmes. Et il t'a placé à une place particulière. Alors, quelles sont les femmes et les hommes de paix qu'il a mis sur ta route et qu'il veut sauver? Dieu t'a mis à un endroit tous ici. On est tous concernés. Ce n'est pas seulement certaines élites. Chacun d'entre nous, Dieu nous a placés à un endroit pour sauver, pour que Dieu sauve des personnes. Et il va le faire. Et ça a été aussi le cas, comme je vous l'ai dit, pour Joseph et Esther que nous verrons plus tard, une prochaine fois. Voilà, les amis, ce que j'avais envie de vous partager. Soyons des Daniels dans ce monde.